Guerre et paix, première partie, chapitre 3, scène 18. Aux environs du village de Pratzen, pas un chef n'était visible. Rostov n'y aperçut que les troupes fuyant à la débandade. Sur la route, des calèches, des voitures de toute espèce, des soldats russes, autrichiens, de toutes armes, blessés ou non blessés, défilèrent devant lui. Toute cette foule se pressait, bourdonnait, fourmillait et mêlait des cris au son sinistre des bombes lancées par les bouches à feu françaises des hauteurs de Pratzen.
« Où est l'empereur? Où est Kutuzov ?»
demandait-il au hasard, sans obtenir de réponse. Enfin, attrapant un soldat au collet, il le força à l'écouter.
« Hé, l'ami, il y a longtemps qu'ils sont tous là-bas, qu'ils ont filé en avant !»
lui répondit le soldat en riant. Lâchant ce soldat, évidemment ivre, Rostov arrêta un domestique militaire qu'il lui semblait devoir être écuyer d'un personnage haut placé. Le domestique lui raconta que l'empereur avait passé en voiture sur cette route une heure auparavant, à fond de train, et qu'il était dangereusement blessé.
« C'est impossible, ce n'était pas lui !»
dit Rostov.
« Je l'ai vu de mes propres yeux !»
répondit le domestique avec un sourire malin.
« Il y a assez longtemps que je le connais. Combien de fois ne l'ai-je pas vu à Pétersbourg ? Il était très pâle dans le fond de la voiture. » Comme il les avait lancés, ces quatre chevaux noirs, Ilya Ivanitch. On dirait que je ne les connais pas, ces chevaux, et que l'empereur peut avoir un autre cocher qu'Ilya Ivanitch. Qui cherchez-vous ?
Lui demanda, quelques pas plus loin, un officier blessé.
Le général en chef, il a été tué par un boulet dans la poitrine devant notre régiment. Il n'a pas été tué, il a été blessé.
Dit un autre.
Qui, Kutuzov ?
Demanda Rostov.
« Non, pas Kutuzov. Comment l'appelle-t-on ? Enfin, qu'importe, il n'en est pas resté beaucoup de vivants. Allez de ce côté, vous trouverez tous les chefs réunis au village de Gostiradek. »
Rostov continua son chemin au pas, ne sachant plus que faire ni à qui s'adresser. L'empereur blessé, la bataille perdue. Suivant la direction indiquée, il voyait au loin une tour et les clochers d'une église. Pourquoi se dépêcher ? Il n'avait rien à demander à l'empereur, ni à Kutuzov, fussent-ils même sains et saufs.
« Prenez le chemin à gauche, votre noblesse. Si vous allez tout droit, vous vous ferez tuer. »
Rostov réfléchit un instant et suivit la route qu'on venait de lui signaler comme dangereuse.
« Ça m'est bien égal. L'empereur étant blessé, qu'ai-je besoin de me ménager ?»
Et il déboucha sur l'espace où il y avait eu le plus de morts et de fuyards. Les Français n'y étaient pas encore, et le peu de Russes qui avaient survécu l'avaient abandonné. Sur ce champ gisaient, comme des gerbes bien garnies, des tas de 10, 15 hommes tués et blessés. Les blessés rampaient pour se réunir par deux et par trois, et poussaient des cris qui frappaient péniblement l'oreille de Rostov. Il lança son cheval au galop pour éviter ce spectacle des souffrances humaines. Il avait peur, non pas pour sa vie, mais peur de perdre ce sang-froid qui lui était si nécessaire et qu'il avait senti faiblir en voyant ces malheureux. Les Français avaient cessé de tirer sur cette plaine désertée par les vivants. Mais à la vue de l'aide-de-camp qui la traversait, leurs bouches à feu lancèrent quelques boulets. Ces sons stridents et lugubres, ces morts dont il était entouré, lui causèrent une impression de terreur et de pitié pour lui-même. Il se souvint de la dernière lettre de sa mère et se dit à lui-même « Qu'aurait-elle éprouvé en me voyant ici sous le feu de ses canons ?» Dans le village de Gostiradek, qui était hors de la portée des boulets, il retrouva les troupes russes, quittant le champ de bataille en ordre, quoique confondues entre elles. On y parlait de la bataille perdue comme d'un fait avéré. Mais personne ne put indiquer à Rostov où étaient l'empereur et Kutuzov. Les uns assuraient que le premier était réellement blessé. D'autres démentaient ce bruit, en l'expliquant par la fuite du grand maréchal comte Tolstoï, pâle et terrifié, que l'on avait vu passer dans la voiture de l'empereur. Ayant appris que quelques grands personnages se trouvaient derrière le hameau à gauche, Rostov s'y dirigea, non plus dans l'espoir de rencontrer celui qu'il cherchait, mais par acquit de conscience. À trois verstes de plus loin, il dépassa les dernières troupes russes, et, à côté d'un verger séparé de la route par un fossé, il vit deux cavaliers. Il lui sembla connaître l'un d'eux, qui portait un plumet blanc. L'autre, sur un magnifique cheval alezan, qu'il crut aussitôt avoir déjà vu, arrivé au fossé, éperonna sa monture et, lui rendant la bride, le franchit légèrement. Quelques parcelles de terre jaillirent sous les sabots du cheval, et alors, lui faisant faire volte-face, il franchit de nouveau le fossé et s'approcha respectueusement de son compagnon, comme pour l'engager à suivre son exemple. Celui auquel il s'adressait fit un geste négatif de la tête et de la main, et Rostov reconnut aussitôt son empereur adoré, dont il pleurait la défaite.
« Mais il ne peut pas rester là tout seul au milieu de ce champ désert !»
se dit-il. Alexandre tourna la tête, et il put apercevoir ses traits si profondément gravés dans son cœur. L'empereur était pâle. Ses joues étaient creuses, ses yeux enfoncés. Mais la douceur et la mansuétude empreintes sur sa figure n'en étaient que plus frappantes. Rostov était heureux de le voir, heureux de la certitude que sa blessure n'était qu'une invention sans fondement. Et il se disait qu'il était de son devoir de lui transmettre sans plus tarder le message du prince Dolgorukov. Mais, comme un jeune amoureux ému et tremblant qui n'ose donner cours à ses rêveries passionnées de la nuit, et cherche avec effroi un faux fuyant afin de retarder le moment du rendez-vous si ardemment désiré, Rostov, en présence de son désir réalisé, ne savait s'il fallait s'approcher de l'empereur ou si cette tentative ne serait pas inconvenante et déplacée.
« J'aurais peut-être l'air,
se disait-il,
de profiter avec empressement de ce moment de solitude et d'abattement. Une figure inconnue peut lui être désagréable, et puis que lui dirais-je quand un regard de lui suffit pour m'ôter la voix ?»
Les paroles qu'il aurait dû prononcer lui expiraient sur les lèvres, d'autant plus qu'il leur avait donné un tout autre cadre, l'heure triomphante d'une victoire, ou le moment où, étendu sur son lit de douleur, l'empereur le remercierait de ses exploits héroïques, et où, lui mourant, il ferait à son souverain bien-aimé l'aveu de son dévouement, si noblement confirmé par sa mort.
« Et d'ailleurs, que lui demanderais-je ? Il est 4 heures du soir, et la bataille est perdue. Non, non, je ne m'approcherai pas de lui. » Je ne dois pas interrompre ses pensées. Il vaut mieux mourir 1000 fois que d'en recevoir un regard courroucé. »
Il s'éloigna donc tristement, le désespoir dans l'âme, en se retournant toujours pour suivre les mouvements de son souverain. Il vit le capitaine von Toll s'approcher de l'empereur et l'aider à franchir à pied le fossé et à s'asseoir ensuite sous un pommier. Toll resta debout à côté de lui, en lui parlant avec chaleur. Ce spectacle remplit Rostov de regret et d'envie, surtout lorsqu'il vit l'empereur, portant une main à ses yeux, tendre l'autre à Toll.
« J'aurais pu être à sa place, »
se dit-il. Et, ne pouvant retenir les larmes qui coulaient de ses yeux, il continua à s'éloigner, ne sachant à quoi se décider ni de quel côté se diriger. Son désespoir était d'autant plus violent qu'il s'accusait de faiblesse. Il aurait pu, il aurait dû s'approcher. C'était le moment ou jamais de faire preuve de dévouement, et il n'en avait pas profité. Il tourna bride et revint à l'endroit où il avait aperçu l'empereur et où il n'y avait plus personne. Une longue file de charrettes et de fourgons passait lentement, et Rostov apprit d'un des conducteurs que l'état-major de Koutouzov était non loin du village, et qu'il s'y rendait. Il les suivit. À 5 heures du soir, la bataille était perdue sur tous les points. Plus de 100 bouches à feu étaient tombées au pouvoir des Français. Tous les corps d'armée de Przeszczebiszewski avaient mis bas les armes. Les autres colonnes, ayant perdu la moitié de leurs hommes, se repliaient en troupes débandées. Le reste des colonnes de Langeron et de Doukhtourov se pressait confusément autour des étangs et des écluses du village d'Augest. Sur ce point seul, à 6 heures du soir, continuait encore le feu de l'ennemi, qui, ayant placé des batteries à mi-côte de la hauteur de Pratzen, tirait sur nos troupes en retraite. Doukhtourov et d'autres à l'arrière-garde, reformant leur bataillon, se défendaient contre la cavalerie française qui les poursuivait. Le jour tombait. Sur l'étroite chaussée d'Augest, pendant une longue série de paisibles années, le bon vieux meunier, en bonnet de coton, avait jeté ses lignes dans les temps, pendant que son petit-fils, ses manches de chemise retroussées, s'amusait à plonger la main dans le grand arrosoir où frétillaient les poissons argentés. Sur cette même chaussée, sous l'œil du paysan morave, en bonnet de fourrure, en habit gros bleu, d'énormes chariots avaient longtemps passé au pas, amenant au moulin de riches gerbes de froment et remportant de gros sacs d'une farine blanche et légère, dont la fine poussière voltigeait en l'air. Et maintenant, on y voyait une foule égarée, affolée, se pressant, se heurtant, s'écrasant sous les pieds des chevaux, les roues des fourgons, des avant-trains, et foulant aux pieds les mourants pour aller se faire tuer quelque part plus loin. Toutes les 10 secondes, un boulet ou une grenade tombait et éclatait au milieu de cette foule compacte, tuant et couvrant de sang tous ceux qu'ils atteignaient. Dologoff, déjà officier, blessé à la main, seul avec ses 10 hommes et son chef à cheval, représentait tout ce qui restait du régiment. Entraîné par la masse, il s'était frayé un chemin jusqu'à l'entrée de la chaussée, où il s'était vu arrêté par le cheval d'un avant-train qui était tombé et qu'il fallait dégager. Un boulet tua un homme derrière eux, un second en frappa un autre devant, et le sang jaillit sur Dologoff. La foule se rua en avant avec désespoir et s'arrêta de nouveau.
« Le salut est au-delà de ces 100 pas. Rester ici, c'est la mort. »
Voilà ce que tout le monde disait. Dologoff, qui avait été refoulé au milieu, parvint jusqu'au bord de la digue et courut sur la faible couche de glace qui recouvrait l'étang.
« Voyons, tourne par ici »
cria-t-il au canonnier.
« Elle tient !»
La glace le supportait effectivement, mais elle craquait et cédait sous ses pas. Et il était évident que, sans attendre le poids du canon et de cette foule, elle allait s'enfoncer sous lui. On le regardait, on se pressait sur les bords sans se décider à l'imiter. Le commandant du régiment à cheval leva le bras, ouvrit la bouche pour lui parler, lorsqu'un boulet siffla si bas au-dessus de toutes ses têtes terrifiées qu'elles s'inclinèrent. Et quelque chose tomba. C'était le général qui s'affaissait dans une mare de sang. Personne ne le regarda, personne ne songea à le relever.
« sur la glace, n'entends-tu pas? Tourne, tourne !»
crièrent plusieurs voix. Les gens ne savaient pas encore même pourquoi ils criaient ainsi. Un des derniers avant-trains s'y engagea. Et la foule se précipita sur la glace qui craqua sous l'un des fuyards. Son pied s'enfonça dans l'eau. En faisant un effort pour le retirer, il y tomba jusqu'à la ceinture. Les plus proches hésitèrent. L'homme de l'avant-train arrêta son cheval, tandis que derrière continuaient les cris « en avant sur la glace !» et des hurlements de terreur retentirent de toutes parts. Les soldats, entourant le canon, tiraient et battaient les chevaux pour les forcer à avancer. Les chevaux partirent, la glace s'effondra d'un seul bloc, et 40 hommes disparurent. Cependant, les boulets ne cessaient de siffler et de tomber avec une sinistre régularité, tantôt sur la glace, tantôt dans l'eau, et de décimer cette masse vivante qui avait envahi la digue, les étangs et leurs rives.